C'est bon. Donc, nous allons commencer directement la première session intitulée « Représentation des rapports de pouvoir au sein des œuvres ». Donc, nous allons écouter deux communications d'Isabelle Maillot, qui est docteur au CRESPA Laptop, et qui va nous parler avec une communication intitulée « La voix du bon peuple de France, la jeune fille ». La vieille femme et les chansons. Je laisse la parole à Isabelle. Okay.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisatrices, aux organisateurs de ces journées. Moi, je suis ravie d'être ici avec vous et de participer donc au premier volet de cette session consacrée aux représentations des rapports de pouvoir au sein des œuvres. Donc moi, je vais vous parler d'un corpus de chansons populaires de tradition française, on y reviendra, qui est un corpus qui est issu de mon corpus de thèse, donc que j'ai soutenu en février dernier, et qui est en réalité un corpus qui préexiste à mon travail de recherche, qui a été précisément constitué dans la seconde moitié du XIXe siècle à l'initiative de Louis-Napoléon Bonaparte, sous l'initiative donc de Louis-Napoléon Bonaparte, et qui est aujourd'hui connu sous la dénomination d'enquête Fortoul. Alors, je vais dire quelques mots pour situer cet épisode. Donc, on est au milieu du XIXe siècle. Hippolyte Fortoul, que vous voyez à l'écran, est le ministre de l'Instruction publique et des cultes. À cette époque-là, on associe les deux. Il a été nommé par Louis-Napoléon Bonaparte à la suite du coup d'État. Donc, je peux pas faire l'histoire de la Révolution de 48 en trois minutes, mais pour vous situer, donc on a la Révolution française de 1848, qui est suivie par une vague de répression, d'autoritarisme, en fait, montant, avec un moment marquant qui est le coup d'État de Louis-Napoléon à la fin de l'année 1851, qui est suivi dans les premiers mois de 52 par une déclaration de l'état de siège, des répressions, des condamnations à l'exil, des censures de lieux de chansons notamment. Donc c'est une période qui est assez cruciale, en fait, dans la répression des discours, notamment des chansons et des lieux de chansons. Et donc, dans ce contexte, survient donc cet épisode connu sous le nom de l'enquête Fortoul, qui est une collecte de poésie populaire de la France. Donc, on est en septembre 1852. Elle est ordonnée donc par celui qui va devenir Napoléon III quelques mois plus tard, en décembre 52. Elle intervient en fait à la suite de mesures qui sont plutôt répressives. Et elle n'est pas envisagée généralement, en fait, dans ce sillage-là. En fait, on connaît de la politique culturelle de Napoléon, souvent ce que je viens de présenter très succinctement, le volet répressif, avec le cas de Victor Hugo, par exemple, qui part en exil pendant 20 ans. Donc, ce sont des années post-révolutionnaires qui sont, comme c'est souvent le cas, marquées par une vague de conservatisme encore plus importante que la situation qui existait avant la Révolution. Mais on considère peu ou pas, en général, le volet prescriptif de cette politique culturelle. Et donc, l'enquête Fortoul dont je vais vous parler s'inscrit dans ce cadre. Donc, c'est un versant un peu plus prescriptif, et qui est généralement un peu considéré à la marge, et pas du tout dans le cadre d'une histoire politique plus générique comme ça. Donc c'est une enquête qui se déroule sur 25 ans, de 1852 à 1877. Son objectif est assez clair, puisqu'il s'agit de constituer un recueil de poésie populaire. Donc c'est un monument à la gloire, un monument littéraire à la gloire du pays, dans le sillage d'initiatives qu'on connaît à cette époque-là en Europe, en fait, qui sont un peu plus, qui interviennent plutôt à partir de la fin du XVIIIe. Donc, de ce point de vue, la France est en retard, si on veut tout. Et donc, c'est une collecte qui dure pendant 25 ans, mais qui connaît des phases différentes, qu'on peut de manière schématique partager en trois temps. Une première période de 1852 à l'automne 53 qui correspond à ce que j'appelle une phase d'innovation, où on a des instructions qui sont rédigées collectivement et qui sont adressées donc à la fin de l'année à un ensemble de collecteurs, donc sur lesquels je vais revenir tout de suite, qui sont destinés à orienter cette collecte. Une seconde période de 53 à 57 qui constitue le cœur du, enfin le moment de la collecte collecte massive où des poésies donc sont recueillies en masse à Paris, et une dernière période au cours de laquelle le projet va péricliter, qui s'étale jusqu'en 1877. Il y a beaucoup d'initiateurs de la collecte et de gens qui contribuent au début qui sont morts, donc c'est une collecte aussi qui s'essouffle juste parce que les personnes simplement disparaissent. Et bon, il y a plein de, enfin, il y a des hypothèses sur le pourquoi ça n'a pas marché. Pour moi, peu importe. En fait, ce qui est important de retenir, c'est que c'est une collecte qui va marquer durablement ce qu'on entend aujourd'hui par chanson populaire de tradition française, puisque précisément, c'est à l'occasion de cette collecte qu'on va prescrire un canon qui va être diffusé et repris durant la Troisième République, pardon, et qui est encore en fait le canon que l'on connaît aujourd'hui. Je pense que vous avez tous quelque chose de spontané qui vient à l'esprit quand on dit chanson populaire de tradition française. Donc c'est quelque chose qui est fondé à cette époque-là. Si on se situe avant 1852, on n'a pas ça en tête. Donc voilà, c'est une collecte qui n'est pas un succès dans le sens où le recueil n'a pas lieu, mais qui est une grande réussite du point de vue de ce qu'elle contribue à diffuser comme canon de la chanson populaire. Alors bizarrement, ou pas, cette enquête donc est très rarement considérée dans la continuité, pensée dans la continuité de la Révolution de 48. Elle est toujours envisagée plutôt dans le sillage des collectes de quelques écrivains romantiques donc, qui surviennent au début du 19e siècle, à l'instar de Georges Sand, et donc qui contribuent comme ça à une image un peu sympathique, inoffensive, voilà, on va dire, de cette initiative, qui est donc, je le rappelle, une initiative d'État, par un homme qui est plutôt connu pour ses faits autoritaires, portés par un ministre qui s'est illustré donc pour ses consignes de bonne conduite et de tenue vestimentaire à l'attention des instituteurs notamment. Donc voilà, ça c'est pour poser un peu le cadre. Et donc les enjeux politiques qu'il y a de pacification et de cohésion intérieure qui président en fait à cette collecte sont généralement passés sous silence. Dans cette communication, donc, je vais développer plutôt cette dimension politique et montrer ici donc, comment la prescription d'une vision docile du populaire s'articule à une vision genrée du monde social. Les femmes, donc, pour le dire très vite, étant considérées comme plus enclines à la soumission et les hommes plus disposés à la protestation. Alors, c'est un examen qui repose sur différentes ressources manuscrites et imprimées. Donc on a évidemment les décrets, les arrêtés, les circulaires ministériels qui encadrent cette collecte et qui sont en fait très très nombreux, qui sont destinés à tous les fonctionnaires. Donc on a des circulaires en 1852, d'autres en 1853 qui donnent une idée assez précise de ce que le pouvoir, donc au sens littéral d'un président et un ministre, ont en tête ici. On a aussi les procès-verbaux et les comptes-rendus officiel de la section de philologie. Donc je vais y revenir tout de suite avec un schéma pour situer les différents acteurs, mais donc c'est la partie scientifique en fait de cette c'est l'organe, l'instance scientifique à laquelle est déléguée la mise en œuvre, c'est les maîtres d'œuvre en fait de cette collecte. Et donc on a les procès-verbaux imprimés des séances, donc on peut suivre mois par mois quels sont les critères qui prévalent pour inclure ou exclure des poésies. On a le texte imprimé des instructions, donc que j'évoquais tout à l'heure, qui est rédigé tout au long de l'année 52-53, qui est diffusé à la fin de l'année 53, qui compte une soixantaine de pages et qui est vraiment le document cadre, je vais y revenir, qui précise les caractères des poésies populaires. Et on a enfin donc quelque chose que vous pouvez voir en ligne si vous voulez poursuivre après cette communication, des poésies donc qui sont admises et des poésies refusées. Donc la partie admise est c'est pas exactement ça, mais tendanciellement, on va dire, est plutôt à la BNF, au département des manuscrits. Et les poésies qui ont été refusées, poésie à cette époque-là, en fait, toute chanson est une poésie, mais toute poésie n'est pas nécessairement chantée. Pendant le temps de la collecte, il y aura un glissement donc, sur lequel je ne peux pas développer là, mais parce que c'est un des enjeux de la prescription, mais en tout cas, ce n'est pas une confusion de ma part, c'est vraiment qu'on peut utiliser les deux termes. Donc les poésies refusées sont dans les cartons, enfin dans deux cartons qui sont conservés aux ANF maintenant. Je vous présente là, ça sont en fait il y a 6 volumes qui sont conservés à la BNF, donc là c'est un des volumes et donc ça se présente comme ça. Et voilà un exemple d'une poésie, paroles et musique collectées donc dans la période 52-50. Alors comme nous allons le voir à présent, L'analyse conjointe de ce répertoire de chansons populaires et des modalités de sa constitution révèle plusieurs choses. Premièrement, donc les femmes sont exclues du dispositif de collecte qui comprend énormément de personnes, on va le voir, mais ce n'est pas forcément très étonnant, enfin, compte tenu de ce qu'on sait sur les positions, enfin, le non-accès des femmes, donc là on est en 1852, aux positions de savants et même de connaissances. On n'a pas d'institutrice en 1852, par exemple. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est le paradoxe, ou en tout cas ce qui m'a surprise quand j'ai commencé à compulser ces poésies, c'est que les femmes donc, sont complètement absentes du dispositif de recueil de collecte de données. En revanche, elles sont omniprésentes dès lors qu'on s'intéresse aux personnes qui transmettent donc, sur le terrain, donc, qui est un des canaux privilégiés pour collecter les poésies. Donc, en l'occurrence, on verra que ce sont les vieilles femmes qui plus particulièrement sont très prisées sur le terrain. Et enfin, donc, je m'intéresserai un peu plus au répertoire. Donc, j'ai pas fait une analyse systématique de ce répertoire. Donc, c'est plus un sondage un peu avancé qui permet de rentrer quand même dans, finalement, quels sont les contenus et qu'est-ce qu'on nous dit dans ces chansons. Alors, donc, si l'enquête Fortoul est aujourd'hui bien repérée par l'historiographie, c'est parce qu'elle est exceptionnelle de par son ampleur. J'évoquais tout à l'heure les plus de 3000 chansons collectées, donc c'est vraiment beaucoup. Et c'est vraiment beaucoup parce que ce sont beaucoup de collecteurs qui sont mobilisés sur le terrain. Pour se faire une idée du dispositif, donc, qui est complètement redevable à une administration napoléonienne, mais de Napoléon le Grand, et donc pas le petit sur lequel on est là, donc on a une conception par quadrillage de l'administration du territoire, avec en haut et à Paris, le ministre Hippolyte Fortoul, qui délègue la réalisation de recueils à la section de philologie. Et ensuite, pour aller chercher... Donc la section de philologie, c'est 12 savants, des hommes parisiens, qui occupent des positions académiques dominantes dans trois domaines principaux, la littérature, l'histoire littéraire et la philologie, qui peuvent éventuellement, lors de leurs vacances, aller faire un tour en Bretagne, mais c'est pas eux qui vont la plupart du temps sur le terrain. Donc sur le terrain, on a trois canaux. Les correspondants du comité, donc c'est le comité des travaux historiques et scientifiques qui existe encore aujourd'hui, mais sous une forme qui a peu de choses à voir avec ce que ça représente à l'époque. Et donc ça, en fait, c'est la partie notable locaux qui est une position très prestigieuse à cette époque-là, qui est très valorisée. Donc ça, c'est un premier canal ordinaire, en fait, du fonctionnement du comité à laquelle appartient la section de philologie. Donc on sollicite pour mener des études un peu de grande ampleur territoriale. Le second canal qui a déjà été mobilisé dans le cadre d'une enquête publique, mais c'est assez rare encore à cette date, c'est celui d'instruction publique, avec, vous voyez, une organisation par grade, en fait, de ces fonctionnaires, avec les recteurs, les inspecteurs de l'instruction primaire et les instituteurs. Donc ça, c'est un des canaux les plus pourvoyeurs, en fait, de collecte de terrain. Et enfin, donc ça, en 1854, ils introduisent un troisième canal qui est aussi intéressant parce que c'est les mêmes ressorts que le canal d'instruction publique, c'est-à-dire qu'on mobilise des fonctionnaires à la marge de leur activité ordinaire. Donc, en fait, là, on n'a que des bénévoles qui vont... donc, à la marge, l'instituteur est encouragé par circulaire à faire montre de zèle et donc à collecter des poésies. Et pour les officiers, c'est la même chose, mais ça fonctionne beaucoup moins bien. Je pense qu'ils ont un rapport au savoir qui est moins... qui les dispose moins à recueillir des poésies. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à chaque grade, en fait, donc une position dans une fonction professionnelle correspond dans le dispositif d'enquête une position sur le terrain. C'est-à-dire, par exemple, on a à Carré, donc c'est une ville ou un village, je ne sais plus quel est le nombre d'habitants exact, mais bref, en Bretagne, on a un instituteur qui fait remonter à son inspecteur donc ses poésies, qui lui-même va les remonter au recteur et qui va les remonter à la section de philologie. Donc on a une stratification sociale, en fait, du dispositif d'enquête qui permet d'aller très très loin dans les campagnes, qui est un des buts de cette, de cette collecte. Et donc, ce qui est notable, pour finir sur le dispositif, c'est qu'on a une volonté d'inclusion sociale qui est assez remarquable, qui est liée aux enjeux, et qu'en dépit de cette hétérogénéité sociale assez frappante dans un dispositif de production de savoir, on n'a aucune femme. J'en ai trouvé une, mais du coup, j'étais même pas sûre. Mais voilà, il n'y a personne, les institutrices, ça n'existe pas. Donc, elles ne sont pas là. En revanche, on descend un peu sur le terrain, je vais y revenir, mais on ne cherche pas que des poésies transmises par la tradition orale. On a aussi des recherches en bibliothèque, des recherches en archives. Donc ça, c'est une dimension qui est celle qu'on retient aujourd'hui quand on pense poésie. On pense plus poésie, d'ailleurs, on pense chanson traditionnelle, on pense immédiatement tradition orale. En réalité, il faut un peu... Il faut voir ça comme un des résultats de cette collecte. À cette époque-là, en 1852, on n'associe pas immédiatement oralité et chansons traditionnelles. La façon dont ce répertoire a été produit. Donc là, je vais le faire de manière assez succincte, mais un peu pour situer mon cadrage théorique, pour dire. J'ai emprunté beaucoup pendant ma thèse au concept de Michel Lamont de frontière, qui permet de penser les délimitations symboliques. Donc qui permet là, en l'occurrence, de jamais se préfigurer une définition de ce qu'on faut entendre par chanson traditionnelle, mais de voir justement comment cette définition est produite à l'occasion de cette collecte. Donc c'est considéré ici des opérations savantes de délimitation d'un répertoire. Et donc ici, en fait, très concrètement, c'est un peu, si l'on veut, voir les conditions de la seconde production d'un répertoire, puisque ces chansons existent, mais le fait qu'elles soient rassemblées et constituées en chansons populaire traditionnelle et le fait de cette enquête. Alors dans le décret donc qui ordonne la conduite du recueil, on a une précision du périmètre qui est assez qui est pas très précise, on va dire, puisque donc l'article 2 invite la section de philologie à orienter ses recherches donc vers un recueil de poésie qui comprendra les chants religieux et guerriers, les chants de fête, les ballades, les récits historiques, les légendes, les contes, les satires. Donc il est prévu dès l'automne 52 que des instructions accompagnent, orientent la collecte. Elles sont initialement confiées à trois des membres donc, de cette section de philologie qui compte 12 hommes, dont Ampère, que vous voyez à l'écran, et qui est en fait la personne la plus importante, qui est doublement académicien. Donc c'est lui, c'est le seul à cette époque-là, est doublement... Ah oui, ça va pas aller. D'accord. Donc je passe sur les instructions. Ce qui était important dans les instructions, c'est qu'il y a un paratexte qui précise. Les instructions précisent ce qu'il faut entendre par poésie populaire et elles donnent des indications. Elles demandent aux collecteurs aussi de préciser les conditions dans lesquelles ils effectuent le recueil. Donc, on peut puiser. Voilà, ça, c'est ce que je vous disais sur les trois sources, tradition orale, les manuscrits, les bibliothèques. Et donc, à la fin. Donc, il faut décrire les conditions dans lesquelles on a collecté. Donc, ce que font très bien les collecteurs, et c'est là où interviennent en fait les vieilles femmes. En fait, on trouve dans beaucoup de ce que je vous montrais comme exemple de poésie, on trouve beaucoup de petits textes en marge qui précisent c'est une vieille femme qui m'a transmis cette chanson, donc qui sont en fait érigés en gage de popularité de la pièce. Je sais pas si vous avez le temps de lire. Peut-être juste un exemple. Cette chanson provient de l'ancien Hainaut français. Je la tiens sous cette forme de ma grand-mère, qui l'avait elle-même apprise de sa mère, étant encore très jeune. Donc on est dans une image de la femme mère, grand-mère, épouse. Donc c'est la mère nourricière. C'est un vecteur de transmission, mais pas de création. Donc elle n'est pas légitime pour produire du savoir, la vieille femme, mais pour le transmettre, oui. Du coup, là, je vais aller très vite sur le répertoire. Bon, de toute façon, je n'ai pas fait une étude très... c'est plus un sondage. Là, ce sont les résultats... un point d'étape qui est fait par le secrétaire de ce comité en 1857. Vous voyez ici, en fait une liste des poésies qui ont reçu, qui ont, pour lesquelles ils ont reçu le plus de variantes. Donc ça veut dire que ce sont les chansons les plus populaires de ce point de vue. Et donc parmi les intitulés, simplement, on en a 8 sur les 18 qui évoquent la figure féminine, donc la fille de Dion, la femme du Rollier, etc., etc. Les thématiques, si on va un peu plus dans le contenu, c'est toujours la même chose. C'est des préceptes de bonne conduite, d'abnégation, de soumission à l'homme, du mariage, évidemment. Enfin, donc il y a une visée morale qui est patente. Et alors, j'ai pris une illustration, qui est un peu trash, faut le dire. Elles sont pas toutes comme ça, mais c'était voilà pour bon. Donc je ne sais pas si on voit. Je vais vous lire en fait. Vous avez une ronde là. Vous avez le paratexte, donc pour situer. Donc c'est le collecteur qui délivre donc ces informations, qui nous dit cette ronde dont la naïveté est singulière me vient de l'île de Ré, où les petites filles, pour ne pas dire les jeunes filles, la chantent sans la moindre arrière-pensée, ce qui ne prouve pas qu'on doive s'empresser de leur apprendre. Alors. La chanson fait le récit en fait d'une jeune fille qui a été mariée par son père à un avocat et qui rapporte à sa mère une nuit de noces qui est pour le moins dramatique, puisque en fait je pense qu'on peut qualifier ça de viol conjugal, puisque le chant s'achève, donc c'est le petit bout ici, je cite, la mère en femme sage lui dit on n'en meurt pas, car si on en mourait, vous ne seriez pas là. Et donc là la jeune fille dit ah ma mère. Voilà. Donc la morale de cette histoire, donc extrême, est en fait conforme à ce qu'on trouve dans ce répertoire. Donc on a toujours l'ordre qui est mis en avant, le primat de la figure patriarcale, l'aliénation de tous au travail, donc qui n'est pas là présent, mais ça c'est aussi une des thématiques qui est chère aux poésies populaires. Et donc on a des injonctions en fait à la soumission de toutes parts. Pour conclure, je suis désolée du coup d'avoir accéléré, voilà. Je voulais en fait insister sur 3 points qui sont des pistes de discussion éventuelles. Donc au-delà d'une distribution classique où on a des hommes qui produisent, donc dans le dispositif savant d'hommes qui produisent des discours sur les femmes, on voit ici un cas donc où la vieille femme peut être en position à la fois centrale et passive, puisque au titre de reproductrice, donc à prendre dans tous les sens du terme, la vieille femme est légitime et non de créatrice. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est structurant. Bon, je pense qu'on peut croiser ça dans d'autres domaines. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est un épisode qui montre comment la figure féminine a pu être impliquée ici, ce qui était quelque chose que je ne cherchais pas et qui m'a apparu à force de manier ces papiers, dans l'hétérogénéisation d'un populaire traditionnel en France. Et donc la langue ici est à comprendre dans le même sens que ce qu'en montre et ce qu'en fait Colette Guillaumin dans l'idéologie raciste. Donc c'est un symptôme de stratégie de discrimination. Et donc là, on utilise la femme pour hétérogénéiser ce populaire. Enfin, donc troisièmement, à l'instar de travaux donc, qui sont assez nombreux dans le domaine des arts visuels, on a ici, dans le domaine du sonore, une déclinaison du modèle de la mobilisation politique de la femme comme emblème national. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites sur cette période dans les arts visuels. Dans la musique, c'est moins développé. Donc je pense que c'est une voie voilà, qui peut être approfondie. Et donc au total, si on devait retenir qu'une seule chose, après je vais m'arrêter, dans ce moment de définition d'une représentation en chanson du bon peuple de France, on s'aperçoit que la figure féminine est en réalité omniprésente. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup d'avoir tenu les temps de parole, plus ou moins. Ça fait un véritable plaisir de vous écouter et de vous lire. Donc, je vais parler très vite sur certains points communs et vous faire quelques petites questions. Donc, les deux terrains d'enquête, soit d'un côté les manuscrits, donc les chansons comme les séries de télévision, évidemment sont à mon avis des instruments de pouvoir privilégiés pour la naturalisation des inégalités et vous savez vraiment repérer ces processus favorisant la construction des différences sexuées dans les deux cas dans le passé avec l'enquête Fortul et dans le présent donc, et dans les deux cas on voit comment cette construction a eu lieu. Et donc, je voulais un peu, disons, en lisant les textes d'Isabelle, donc on a vu que la historiographie a été toujours la cible des premières analyses féministes et dernièrement et depuis le début. Donc, les recherches se sont concentrées principalement sur la question d'invisibilité des femmes en tant qu'objet de recherche. Puis, ils se sont intéressés à leur exclusion en tant que sujet de recherche. Mais aujourd'hui, on voit que ces critiques se sont vraiment renforcées avec l'influence du black féminisme qui a pointé l'exclusion des femmes noires comme objet et sujet de recherche. Donc, en ligne de ces discours, je me demandais, pour Isabelle, donc, étant donné que l'esclavage dans toutes les colonies françaises a eu lieu formellement en 1848 et que la collecte connue sous le nom de l'enquête Fortu a eu lieu en 1852, est-ce que je me demandais, parce que toi, je sais que c'est un sondage que tu as fait, mais est-ce que tu as pu observer ou lire des poésies, des chants, des récits, des légendes, des contes ou chansons, véhiculant l'idée d'une supériorité, de race blanche, de stigmatisation de population de certains groupes? Parce que ça me paraît étonnant, mais en même temps, est-ce que cet corpus qui était refusé, est-ce que tu as pu songer dedans pour savoir pourquoi ils ont été refusés, etc. Et je voudrais aussi la chanson que tu as mentionnée à la fin sur la jeune fille qui raconte à sa mère les vols conjugales. Et évidemment, cet exemple permet non seulement de constater l'ancrage profond du système patriarcal qui cherche à reproduire l'ordre établi, mais également nous permet de mesurer l'importance des combats menés depuis un petit moment pour faire l'effet de considérer les violences domestiques avant comme une affaire privée et aujourd'hui comme une question publique permettant de demander des politiques spécifiques. Donc je demande deux petites questions. Première, à quoi tu fais référence quand tu dis que l'enquête se voulait inclusive? Si c'est, je ne vois pas très l'inclusion, mais donc à quoi tu fais référence à ces côtés-là? Et donc je passe très vite à Mathieu. Donc j'ai également trois questions très précises à te poser. Donc la première, pour demander de contextualiser la production de ces séries de télévision. Donc est-ce que tu peux observer des différences entre la réalisation des séries policiers produites par les femmes et celles produites par les hommes? J'imagine, par exemple, en termes de transgression des normes, est-ce que tu as vu une certaine différence? La même chose, tu peux noter des différences évidentes entre les séries états-uniennes et françaises ou européennes dans cette mise en scène, dans la représentation et surtout en termes de transgression des normes. Et dans ton étude, as-tu pensé à analyser les différences sexuées dans l'obtention des rôles principaux ou secondaires dans les séries? Donc, qui obtient, comment, pourquoi, et dans cette série, est-ce que c'est important? C'est un donné qu'on n'a pas, mais les rôles des comédiens dans votre... Donc, je vais passer, avant que vous répondiez, pour savoir s'il y a des questions dans la salle.
Quelle raison vous estimez être plus légitime pour aborder la question de genre et non celle de race? Et pourquoi, à la fin, dans votre conclusion, vous avez estimé que ce qu'on voyait, c'était une sorte d'avancée quand on voit une femme tirer sur un homme, quand moi, de mon point de vue, je voyais encore un flic blanc tirer sur un noir.
Bonjour, merci pour vos interventions. Je suis Louis Jésus. Ma question s'adresse à Isabelle plutôt. Finalement, cette démarche que tu décris, c'est celle de l'établissement d'un répertoire. Enfin, j'utilise le terme de répertoire parce que c'est maintenant le mot qu'utiliserait le ministère de la Culture. Et en général, quand le ministère de la Culture veut institutionnaliser une pratique, l'encadrer, la première démarche est d'établir un répertoire de ce qui existe. Par exemple, en ce moment, le ministère fait ça pour la danse hip-hop. Ouais. Ma question, c'est est-ce que l'étape suivante a été franchie ensuite? C'est-à-dire qu'est-ce que sur la base de ce répertoire de poésie, de chansons populaires, Ensuite, il y a eu des actions mises en place par l'État pour encadrer la pratique de la chanson ou éventuellement pour créer, élaborer des standards de production d'un secteur conventionné de la chanson populaire, un peu comme ce qui s'était fait sur le modèle des Beaux-Arts quelques décennies avant. Merci.
Okay. Je vais commencer par la question de l'inclusivité. Alors, ce que j'ai dit, j'ai peut-être pas assez insisté, c'est que ce qui est frappant quand je parle d'inclusivité sociale, c'est simplement pour parler de la stratification sociale, de la division et de la hiérarchisation du travail de collecte qui repose aussi bien. Chacun a sa place, littéralement. Donc l'instituteur a sa place et l'académicien à Paris aussi. Et donc je soulignais cet aspect-là pour dire que c'est d'autant plus frappant du coup que les femmes ne sont pas là. Voilà sur ce point. Sur la question de l'international, de l'esclavage. Donc l'enjeu de la constitution de ce répertoire, c'est bien de définir un patrimoine littéraire, un génie national français, de France. Et en fait, je pense que ça se joue plus dans un rapport à l'Allemagne et à d'autres nations européennes qui ont constitué aussi leur identité culturelle sur une identité, enfin, et vice-versa, en fait, l'identité politique sur une identité culturelle, alors suivant des modalités qui sont variables d'un pays à l'autre. Mais en tout cas, il y a cet enjeu-là. Et donc, précisément, Fortoul, donc le ministre, est aussi un spécialiste d'histoire littéraire et précisément d'histoire comparée de la littérature. Et donc, il a écrit plusieurs choses et donc il y a un enjeu de supériorité via l'exhumation de ce patrimoine littéraire, de supériorité de la nation française vis-à-vis de la nation allemande. Par ailleurs, dans les critères qui sont définis dans les instructions, il y a des critères de géographie et donc on peut aller chercher des chansons françaises, aussi bien au Québec que dans les colonies. Donc on peut aller rechercher des chansons en créole, par exemple. Alors finalement, j'en ai pas trouvé, donc je pense qu'il y en a eu. Alors, il y en a peut-être eu une qui m'a échappé, mais de fait, il y en a eu très peu. Et donc ça, c'était inclus dans le dispositif et c'était plutôt dans une dynamique d'annexion en fait culturelle. En français, c'est pas, enfin, chanson française n'est pas forcément en français. On peut avoir des chansons en dialecte, ça peut être en créole, voilà. Et donc on peut, alors il y a différentes manières après de revendiquer les poésies de France. Et du coup, pour boucler sur cette question des critères, en fait, donc qui sont là, j'aurais pu faire une communication juste sur ça, qui sont l'enjeu de ces instructions de définir où, quand, qui sont un répertoire de chansons populaires. Les deux frontières principales, en fait, sur lesquelles se joue l'inclusion ou l'exclusion, sont celles de l'ancrage historique. On ne retient que des chansons qui sont antérieures à la Révolution française et de préférence qui sont, ça c'est un truc que j'ai beaucoup développé dans la thèse, qui sont anhistoriques, d'où l'importance de la vieille femme qui nous renvoie à une tradition immémoriale dont on a oublié la date, l'auteur, donc là on arrive à l'anonymat de ce corpus. Et le second enjeu, en fait, c'est de... Là où on a, où les 12 savants peuvent trouver matière à discussion, voire à controverse, c'est la question du caractère littéraire ou populaire de la poésie qu'il aurait envoyée. Et le glissement pendant la collecte entre une poésie et une chanson, en fait, relève de cet indice-là, puisque à la fin de la collecte, en fait, on a une poésie qui va être associée à la littérature et la chanson qui va être plutôt donc sortie du giron de la littérature. Du coup, j'avance dans le temps et j'arrive là-bas. à la question, bien sûr, oui, il s'agit bien de... Enfin, j'ai parlé de... C'est une seconde production, en fait. Donc, il y a le moment de la production de la chanson qui s'est faite de façon plus ou moins localisée, voilà, quel moment où les paroles sont écrites, la musique composée, ça peut éventuellement bouger. On a vu qu'il y avait des variantes. Donc ça, voilà, c'est le moment de la première production. Le moment de cette enquête, donc une enquête publique, c'est assez rare, en fait, c'est un cas spécifiquement français, de constitution comme ça d'un répertoire, c'est vraiment, on construit un canon. Et donc pour aller dans ce sens-là, il y a beaucoup de travaux à partir de la fin du 18e XVIIIe siècle qui ont été réalisées autour de la constitution du canon classique. Moi, là, clairement, c'est la constitution du canon populaire. Voilà. Et donc, alors, pour la suite de la chanson, moi, ce que j'ai plutôt regardé, c'est comment la Troisième République continue à produire du savoir. Ce qui est une des réussites de l'enquête, c'est d'avoir, en fait... générer comme ça une espèce d'envie, enfin, je ne sais pas comment qualifier ça, mais en tout cas, de jeter sur les routes des dizaines d'instituteurs. Voilà. Et en fait, ce qu'on voit dans la Troisième République, c'est les travaux de... Zut, comment elle s'appelle, sur les petites patries, voilà, où on a des fonctionnaires qui sont détenteurs qui sont en charge de la transmission de connaissances et qui contribuent à la constitution des images culturelles des petites patries françaises et qui, du coup, renseignent une image de la nation via les régions. Alors, du coup, cette production de savoir-là contribue à... Il continue d'établir des recueils, mais plutôt à des niveaux régionaux. Donc c'est quelque chose qui se fait indépendamment des pouvoirs publics, en fait. Donc la machine est lancée et il continue. Et alors la question d'une politique dédiée, ça, on le voit plutôt en fait au XXe siècle, donc avec la période autour de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, on aborde le pan compliqué, pour le dire en euphémisant, de cette question de la chanson traditionnelle d'une nation. Et dans les années 70, avec tout ce qu'on connaît sur le revival, où je pense que ça correspond plus à ce que vous aviez en tête. Voilà.
Bon, et nous allons faire une petite pause.